Nico Fernandez pour VOA Afrique, Dakar.
Merci bien, Alison. Les séquelles du coronavirus sont multiples et variées. Impossible de les étaler toutes en profondeur ici, mais comment pouvez-vous les résumer, docteur Kindegazar?
Oui, vous savez, la symptomatologie de la COVID, c'est déjà les signes respiratoires. Donc, les malades guéris, parfois, ont des séquelles actives de fibrose. Fibrose qui leur donne des sensations de gêne respiratoire malgré la guérison. Ils sont dyspnéiques, ils ne sont pas à l'aise. Mais quand on va plus loin, on peut avoir une insuffisance cardiaque, on peut avoir une insuffisance rénale. En tout cas, tous les organes du corps peuvent garder des séquelles. Mais les séquelles les plus importantes, c'est ce que j'ai dit, la dyspnée, la gêne respiratoire, la persistance des myalgies, les gens ont des courbatures ont mal dans les muscles, et la persistance également des signes psychologiques. Parce que quand on est passé par la COVID et qu'on est resté sous respirateur pendant des jours, je crois qu'on sort de là avec beaucoup de troubles psychiatriques, oui. Et il faut qu'on en tienne compte.
Un mot sur ce problème évoqué à l'instant dans le reportage d'Alison, la stigmatisation. S'agit-il d'un autre combat que les malades ayant guéri du coronavirus doivent mener en Afrique, notamment, docteur Etoa?
Effectivement, la question de la stigmatisation est très présente en Afrique. On l'avait déjà expérimenté avec la question du VIH-Sida, dit que toutes ces nouvelles maladies, ils font préfèrent une certaine psychose dans la population, génèrent une certaine stigmatisation chez les personnes qui ont entièrement été malheureusement victimes. Mais il faut dire que faut quand même reconnaître que la stigmatisation se fait moins présente. Elle était très forte au début parce que tout patient qui était victime, qui était infecté par le corona, était considéré comme un danger potentiel, comme quelqu'un qui était venu de l'étranger avec une maladie pour venir tuer les Noirs. Mais progressivement, les gens commencent à dire d'eux-mêmes, j'ai été victime d'un Covid, j'ai attrapé le Covid. Les gens commencent à s'exprimer, donc au fur et à mesure, la stigmatisation s'estompe peu à peu, mais elle n'est pas encore complètement terminée.
Pour revenir au vaccin, parce que bien évidemment, c'est ce qui polarise l'attention en ce moment. Alors, des pouvoirs publics voudraient voir un sérum qui frappe immédiatement très large. Est-ce dans le domaine du possible?
Ben écoutez, en ce qui concerne cette pandémie, comme précédemment dit, tout est dans l'ordre du possible et également tout est dans l'ordre de l'impossible. Cette pandémie est dynamique et comme les collègues ont souligné depuis le début de cette émission, nous avons beaucoup appris depuis un an. Mais également, il reste encore beaucoup à apprendre. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, au début, nous avons eu un vaccin avec plusieurs doses d'isolement conditionnable. Aujourd'hui, nous avons des vaccins avec une dose qui peuvent être conditionnés, y compris dans des pays chauds. Ça veut dire quoi? Nos politiques doivent être ouvertes à toute éventualité. Et pour moi, ce qui est important, ce qui me permet de revenir sur la stigmatisation. Et cette stigmatisation qui est autour du coronavirus n'est pas seulement une stigmatisation de ceux qui sont malades, mais c'est également une stigmatisation de la maladie en elle-même. Parce que encore aujourd'hui, il y a des gens qui n'y croient pas. Pour cela, il faudrait qu'on déploie un plan de communication de manière prioritaire. Parce que je rappelle, les efforts de santé publique au niveau mondial doivent pouvoir avoir un impact au niveau des populations. Ça ne servira à rien de faire tous ces efforts si les populations ne sont pas psychologiquement prêtes à prendre ce vaccin. Et on ne peut pas nier aujourd'hui avec des fake news, des contre-vérités, que la population africaine est dans une phase de psychose où les gens n'y croient même pas. Ils pensent que c'est quelque chose inventé. Donc, de ce point de vue, je me permets d'insister pour que ces plans de communication soient redéployés en ce qui concerne le Covid, pour que nos populations soient éduquées.
Je vous propose maintenant d'écouter cette question qui nous vient de Djamena au Tchad.
J'aimerais vraiment savoir si, après être vacciné, est-ce que cette personne vaccinée ne pourra-t-elle pas contaminer les autres personnes?
Docteur Konaté.
Voilà, très bonne question. Après être vacciné, on peut dire que oui, la personne peut contaminer les autres personnes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce qu'une personne est immune qu'elle ne peut pas contracter un virus. L'immunité, c'est quoi? Ça vous aide à combattre l'infection et à ne pas tomber malade. Nous sommes exposés à des milliers de germes tous les jours. Mais c'est qu'on ne tombe pas forcément malade parce qu'on a une certaine immunité qui nous protège contre ces germes. Et quand on tombe malade, ça veut dire que ce germe a réussi à vaincre notre système immunitaire. Donc oui, madame, on peut transmettre l'infection même en étant vacciné. Voilà, c'est ce qu'on veut dire. Donc, continuez les gestes barrières, c'est très important, même si vous êtes vacciné, parce que si vous ne tombez pas malade ou bien si vous avez des symptômes moindres, vous pouvez le transmettre à quelqu'un qui est plus vulnérable, plus susceptible et qui peut tomber malade. C'est pour ça que là, on parle d'efforts d'équipe, d'efforts collectifs en fait. Ce n'est pas nous seulement, on doit protéger tous, nous protéger tous les uns les autres pour que ce soit vraiment efficace.
Docteur Konaté, une autre question que beaucoup se posent, une question qui a trait à la durée de l'immunité après la vaccination. Donc y a-t-il une certaine durée?
Ça c'est une très bonne question. Nous sommes en train d'attendre tous la réponse à cela. Pour le moment, on dit que deux semaines après votre première dose, vous êtes protégé plus ou moins contre vous avez une certaine immunité. Et en fait, il projetait l'immunité pour une durée de 3 mois à partir de la date de vaccination. Mais maintenant, on est en train de dire que l'immunité peut être encore plus prolongée dans le temps. Donc vraiment, Jacques, on ne sait pas, on attend. Nous, la communauté scientifique, médicale, à l'écoute avec les recherches. Donc on espère qu'on aura plus de clarifications. Vous savez, le vaccin de la grippe, on se vaccine tous les ans pour la grippe. Pourquoi? Parce qu'il y a les mutations, il y a les variantes. Comme disaient mes collègues avant, la particularité avec le Covid, c'est que ça touche les 5 continents, c'est une pandémie, ça tue, et les médias sociaux sont plus puissants que jamais avec les différents messages. Donc il faut qu'on soit patient, qu'on attende et qu'on voit ce qui va se passer.
Oui, voilà. Il y a deux autres petites questions que l'homme de la rue se pose. Alors la première ayant trait au pourcentage associé au vaccin. Donc que représentent tous ces pourcentages, docteur Etoua?
Je pense que ce sont des pourcentages de protection. Bon, pour les gens, ce sont des communiqués des firmes pharmaceutiques,
oui.
Que ce soit Pfizer, Moderna, AstraZeneca, ce sont encore des communiqués. Sont ces firmes pharmaceutiques qui font des annonces. On n'a pas encore la confirmation avec des journaux scientifiques indépendants, mais nous sommes, pour vu l'urgence, obligé un peu d'accepter ça, mais en faisant des études à prospective, et à la fin on va faire des évaluations pour savoir si ces pourcentages sont effectivement vérifiés. Mais on a vu par exemple qu'en Afrique du Sud, le vaccin d'AstraZeneca, qui était au départ efficace selon le communiqué à 85%, n'a été efficace qu'à 20%. Donc, cette communiqué ne veut rien dire, parfois, il faut la réalité des terrains.
Oui. Alors, pour revenir donc ce qui se passe après la vaccination, alors, cela veut-il dire qu'on peut à nouveau contracter la maladie, même après avoir été vacciné, docteur Mbaga?
Oui, Aristide, on peut contracter la maladie après avoir été vacciné, comme les collègues l'ont dit, pour un peu comme la grippe, mais la différence, c'est la virulence de la symptomatologie. Ça veut dire quoi. Même la simple grippe, parce que parfois il faut qu'on prenne des exemples déjà connus. Parce que l'inconnu crée souvent des confusions. La grippe, par exemple, nous, ici aux États-Unis, on se vaccine contre la grippe chaque année. Mais ça ne veut pas dire que quand on est vacciné, on ne peut plus attraper la grippe. On peut toujours attraper la grippe, mais la symptomatologie va être moindre que si on n'était pas vacciné. Ce qui est important à retenir, on le souligne depuis le début de cette émission, c'est que les virus font partie déjà d'une grande famille à la base. Donc, la famille du Covid, c'est une famille des coronavirus qui était déjà, c'est une famille de virales qui existait déjà, c'est pas nouveau. Donc, quand on fabrique un vaccin, il y a déjà cette efficacité qui est élargie plus ou moins à sa grande famille. Mais non, les variants qui vont arriver vont permettre la différenciation en termes de symptomatologie, mais le noyau est toujours protégé. Je ne sais pas si on se comprend. Ça veut dire que quand on est vacciné contre le coronavirus, on peut toujours l'attraper, mais on ne fera pas la maladie au même titre qu'une personne qui n'a jamais reçu de dose de vaccination.
Et maintenant, cette question envoyée de Ouagadougou, la capitale burkinabé.
Grâce au dispositif COVAX, est-ce que davantage de vaccins gratuits arrivent en Afrique? Ces vaccins sont-ils suffisants? Que font nos gouvernants pour s'assurer que tous les citoyens ont été vaccinés?
Question intéressante, docteur Konaté.
D'accord. Donc, on revient encore au même problème. Ouais. Bon, nos gouvernants, nous savons que le problème du COVID et la vaccination liée au COVID est devenu une question aussi très, très politique. Je crois que le fait d'avoir des vaccins n'est pas le seul problème ici. Je reviens encore à mes collègues qui ont dit que l'éducation, de masse, est très très importante. En fait, mettre les bases pour que la population, un, puisse comprendre ce qui se passe. D'abord, puisse faire la différence entre les fake news et ce qui est vraiment bon pour notre santé, et pour que le personnel de la santé aussi soit apte et prêt aussi à répondre aux questions des populations. Vous serez tenté à savoir que tout le monde est au même pied d'égalité. Bon, bien sûr, le Covid est une inconnue, mais nous faisons tous des efforts tous les jours pour comprendre un peu plus. Donc, être prêt à avoir les vaccins quand ils seront là, et que nos politiques aussi fassent de leur mieux, pas seulement d'avoir des chiffres de vaccins à venir dans le pays, mais aussi préparer la population à recevoir ces vaccins-là et aussi à gérer aussi le quotidien qui est lié à tout ce qui s'est passé avec Corona, les problèmes économiques, psychologiques, socioculturels, parce que le Corona a vraiment emmené une très, 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 très grande tare sur tous nos pays et sur toute la population mondiale en général, surtout en Afrique aussi.
Docteur Etoua, jusqu'ici, quelles ont été les meilleures réponses à ce cataclysme? Vous pouvez évoquer votre pays, le Cameroun, rapidement.
Bon, je pense que sur le plan mondial, nous avons des pays qu'on peut citer en exemple qui ont bien géré la pandémie. On parle notamment de la Nouvelle-Zélande et sa première ministre. On voit également le cas du pragmatisme en Israël, où ils ont anticipé sur la question des vaccins en achetant peut-être 4 fois plus cher les vaccins encore à l'usine et en vaccinant massivement leur population. On voit également le cas en Angleterre où les autorités sont bien rattrapées après avoir un peu fait manquer le coach au début, et se sont bien rattrapées également avec la campagne de vaccination. En Afrique, nous voyons également des pays qui ont, au départ, la majorité des pays africains ont très bien réagi en fermant rapidement les frontières, en dépistant comme elle pouvait, mais en mettant un certain nombre de mesures de restriction. question. Je pense également que certains pays d'Afrique de l'Ouest, tels que le Togo ou le Sénégal, ont également mis des mesures de couvre-feu assez rapides quand la deuxième vague a commencé à pointer à l'horizon. Mais il y a eu un certain relâchement de ces mesures et la population est retombée dans les habitudes d'avant, ce qui a fait prospérer en fait les chiffres de la pandémie. Je parle notamment du cas que je connais qui est le Cameroun. Et donc, avec effectivement la campagne de vaccination qui tarde à se mettre rapidement en place, nous voyons à côté de nous le Gabon qui a déjà vacciné près de 50 000 personnes, la Côte d'Ivoire qui vaccine aussi très bien, le Sénégal qui a un bon rythme de vaccination, le Ghana.
Mais il y a eu des émeutes au Sénégal, docteur Etiwa.
Oui, il y a eu des émeutes.
D'abord,
Ce genre de projet gigantesque ne peut jamais se faire sans heurts. Il faut regretter ces incidents, mais ils sont quand même sur le bon chemin. Donc j'invite tous les...
Parce que finalement, la population doit jouer le jeu également, n'est-ce pas?
Exactement. Et la communication, surtout communautaire, est la clé. Parce que tant que la communauté n'intègre pas, n'accepte pas, n'adhère pas à cette campagne de vaccination, on peut dire qu'elle est vouée à l'échec.
En termes d'aide internationale, de quel type de soutien l'Afrique a besoin en ce moment, hormis les vaccins?
Bon, comme vous savez, le monde est divers. Il y a des pays comme les nôtres, je pense en Afrique, qui n'ont pas eu les moyens de commander des doses massives comme on voit aux États-Unis. Hein. Et donc, actuellement, les pays moins favorisés auront besoin de solidarité internationale, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Le COVID, comme je dis, le COVID va de manière antagoniste avec l'égoïsme. Vous ne pouvez pas être égoïste dans ce moment de COVID parce qu'actuellement, le monde est global. Beaucoup de gens ont la double nationalité, citoyenneté. On voyage partout dans le monde. Donc, se protéger un peu sa propre son petit cocon en ne tenant pas compte des autres qui ont moins de moyens de se procurer la même protection, je crois que c'est se tirer une balle dans le pied, hein. Donc, je crois qu'il faudrait que les nations les plus favorisées, l'aide internationale, devrait se mobiliser et assurer que chaque coin de ce monde ait accès à la vaccination. Parce que tant que chaque citoyen n'aura pas accès à la vaccination, quand possible, nous n'atteindrons pas cette tant souhaitée immunité de troupeau, herd immunity, qui va nous protéger tous contre le COVID. Donc, le soutien doit être pas seulement technique, mais aussi financier, moral, psychologique, parce que le COVID a touché tous les secteurs de notre vie. Il y en a même qui disent, je préfère mourir de COVID que de faim, parce que genre les métiers, ceux qui sont dans le secteur informel, ils sont restés dans la maison confinés et ils ont perdu tout le petit revenu quotidien qui se gagne pour manger. Donc c'est tout un éventail de secteurs où il faut agir et soutenir la population mondiale.
Oui, et d'ailleurs, hommage à toutes ces personnes en première ligne de cette lutte, médecins, infirmiers, etc. On ne peut pas tous les citer. Alors, une dernière question du public dans ce forum citoyen virtuel. Elle nous vient de Charbela Kofi, élève à Lomé, au Togo.
Quand est-ce que nous allons arrêter de porter le masque?
Docteur Kim Degazar.
Très bonne question. Je dirais plutôt, quand est-ce que nous allons arrêter de parler de la COVID? Les deux se tiennent. Tant que la maladie sera là, tant qu'on ne va pas faire reculer la maladie, il faut porter le masque. Parce qu'aujourd'hui, la prévention est la meilleure arme. Nous avons les vaccins. Et les vaccins vont nous protéger contre la survenue des formes graves. Le vaccin ne va pas nous empêcher d'être malade. Or, porter le masque réduit la contamination, réduit la transmission d'un individu malade vers un individu sain. Donc, les gestes barrières doivent continuer même si nous nous vaccinons, et les prédécesseurs l'ont déjà dit, il faut continuer les gestes barrières jusqu'à ce qu'on contrôle cette maladie.
Il faut continuer à respecter toutes les mesures. Alors, la question que se posent tous les habitants de cette planète, quand cela va-t-il s'arrêter avec l'espoir d'un retour à la vie normale? Question ouverte à tout le monde. Je commence par vous, docteur Mbaga.
Il faudra s'adapter. C'est dynamique et avoir l'esprit ouvert à réceptionner ce qui va arriver avec beaucoup d'optimisme et se mettre au travail. Une petite chose sur ce que la communauté internationale pourrait faire
rapidement.
Pour l'Afrique. Rapidement, Jacques Aristide. C'est de permettre à l'Afrique d'être autonome en termes de recherche scientifique. Je pense que pour permettre à l'Afrique de mieux lutter contre ce type de pandémie demain, il faudrait que la communauté internationale aide l'Afrique à s'autonomiser en termes de recherche scientifique fondamentale d'une part et d'autre part recherche appliquée pour que des solutions, y compris endogènes, traditionnelles, parce que notre médecine traditionnelle joue un rôle qu'on ne comprend toujours pas dans cette pandémie, mais qu'on puisse également mettre les solutions africaines en avant. Mais pour cela, il faudrait que nos politiques le demandent aussi et qu'ils soient, engagés dans cette option d'autonomiser l'Afrique en termes de recherche scientifique.
Ouais. Docteur Etoua, cette même question de clôture à vous.
Nous sommes vraiment à la croisée des chemins et la solution est vraiment holistique. En ce qui concerne le Covid, il ne s'agira pas seulement de lutter contre le Covid, mais c'est une occasion de renforcer les systèmes de santé d'Afrique qui sont extrêmement fragiles. Aujourd'hui, quand vous voyez au Cameroun ou dans les pays africains, par exemple, les systèmes hospitaliers sont en lambeaux, il n'y a pas d'équipement, les ressources humaines insuffisantes ou peu qualifiées, le financement insuffisant, le système d'information sanitaire qui est quasiment inopérant. Donc, c'est une occasion également, le Covid est une occasion pour renforcer nos systèmes de santé, nos systèmes d'alerte, pour que nous puissions être plus unis pour les prochaines pandémies.
En deux mots, si vous pouvez, s'il vous plaît, docteur Kindegazar.
Oui, j'ai deux choses à dire. Ouais. Les médicaments traditionnels, il faut qu'on en parle dans le cadre de la COVID, parce que tout le monde a sorti les recettes de la grand-mère sur le continent pour traiter la COVID. Deuxième chose que je voudrais dire, le vaccin. Le vaccin, malgré les initiatives sur le plan international, c'est important que nos gouvernants, que nos pays s'engagent à compléter le gap pour qu'on ait l'immunité collective. Je vous remercie.
Merci. Et on termine avec vous, docteur Sona Konaté. Quand tout cela va-t-il s'arrêter et l'espoir d'un retour à la vie normale?
Voilà, merci beaucoup. Retour à la vie normale, c'est ce que nous voulons tous, n'est-ce pas? Et donc, comme tous les collègues l'ont dit, je ne vais pas répéter, réinventer la roue comme on dit. Donc, la fragmentation de l'information n'a vraiment pas aidé au début. Hein. Donc, il faut qu'il y ait une communication inclusive. Il faut qu'encore que les autorités sanitaires globales, mondiales, au niveau des États, se parlent, communiquent et aussi aient des stratégies communes. Le Covid est sur les cinq continents. Hein. Ça ne concerne pas une seule personne. Donc, ça doit être ça. Aussi engager les populations dans la communication, l'information, la transparence, c'est très important. Tout le monde a accès à Internet dans les contrées les plus éloignées, les gens veulent savoir. Donc pour essayer pour essayer d'engager les populations, de leur faire adhérer à cette lutte commune, collective, il faut qu'ils sachent et il faut qu'il y ait un leadership qui se lève et qui prenne le temps de vraiment d'inclure tout le monde. Voilà, merci beaucoup pour l'opportunité et nous sommes à l'écoute et espérons que dans quelques mois, quand on va se retrouver encore, nous aurons de meilleures nouvelles.
Et voilà, c'est ici que nous refermons Le Monde Aujourd'hui spécial Covid-19. Un grand merci à tous nos invités. VO Afrique continue la conversation sur le sujet car notre équipe web vous donne rendez-vous immédiatement après cette émission ce soir sur Facebook Live avec des invités pour répondre à vos questions. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter un très bon week-end. C'était Jacques Aristide à Washington. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.